Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Bien écoutez, ce générique est tout à fait adéquat avec mon invité d'aujourd'hui, Patrick Frillet. Bonjour Patrick.
Bonjour Sylviane.
Et on a intitulé cette émission « Voyager autrement » parce que nous allons bien sûr présenter Patrick, ses deux carrières si on peut dire, photojournaliste, photoreporter, et puis depuis 2015, partager sa passion avec des voyageurs qui voyagent autrement et qui prennent des photos. Donc, vous conciliez vos deux passions.
Exactement. Exactement.
Alors, voyager autrement, on va en parler, mais d'abord, dites-nous un petit peu votre carrière.
Oh là là. Elle est longue. On s'est déjà rencontrés,
ouais, vous en avez déjà parlé, mais il faut tout de même vous présenter.
Elle est longue, parce qu'elle a commencé quand j'avais 18 ans. Au moment, en fait, elle a commencé quand j'ai passé mon bac et où mon père m'a dit « qu'est-ce que tu veux pour ton bac ?» Et en gros, c'était ma première voiture quoi, à l'époque, etc. Et je lui ai dit « non, la voiture, ça ne m'intéresse pas du tout.
Si tu veux m'offrir
quelque chose ?» Non, ce n'était même pas l'appareil photo. Je lui ai dit « je veux un billet d'avion pour aller à Bombay ». Et il m'a payé mon billet d'avion, mon charter pour aller à Bombay.
Mais c'était l'époque, je pense
aussi. Ah bah oui, c'était de partir en Inde, etc. J'avais les cheveux sur les épaules, j'étais un peu hippie, un peu beatnik. J'étais étudiant aussi, et puis voilà, je suis parti en Inde. Et ça a été ma première grande découverte, ma première grande claque sur le voyage. Et justement, aller vers les autres, parler avec les autres, voir ce qui se passait ailleurs. Et je n'ai pas arrêté depuis. Puisque je suis rentré ensuite, je suis passé comme prof en Irlande du Nord, où j'ai passé 2 ans à Belfast en pleine période de troubles pendant la guerre civile là-bas, et où j'ai enseigné le français. Et de là, pendant que j'étais là-bas, j'étais correspondant pour le journal Libération. Et en même temps, j'ai démarré un peu dans la photo. Et puis, je me suis rendu compte à ce moment-là que la photo, je pouvais beaucoup plus m'exprimer par la photo que par le texte. Je n'étais pas très bon écrivain, très bon auteur.
Vous a présenté, mais vous écrivez des livres aussi, avec beaucoup de photos. Mais il faut bien faire les légendes.
Ah, les légendes, évidemment. Et tous les reportages autour, je les faisais.
Bien
et
sûr.
La plupart du temps, ils étaient réécrits par des rédacteurs qui sont dans les journaux. Quand je faisais un voyage ou un reportage, par exemple, sur un thème, c'est sûr que ce même reportage, s'il était publié dans un journal comme, je dis, Le Figaro Magazine, ou Elle, ou un journal de jeunes, Sciences et Avenir, ou je ne sais pas, le même sujet, évidemment, l'écriture aurait été différente. Dans un journal qui serait La Vie catholique ou Le Pèlerin ou autre, qui serait un journal plutôt religieux, l'écriture sera différente. Par contre, le reportage restera identique.
Vous y veillez.
Je veille à ce qu'ils ne disent pas n'importe quoi
sur
les reportages que j'ai faits. Donc, j'ai beaucoup voyagé après l'Irlande. Et là, j'ai démarré en fait vraiment ma profession de photojournaliste à ce moment-là. J'ai couvert tous les conflits de la planète à l'époque. De manière très engagée, puisque ce qui m'intéressait avant tout, c'était les mouvements de libération, les guerres pour l'indépendance, les autonomies, etc. Donc, c'était tout ça qui m'intéressait. Donc, je suis passé d'Afrique à l'Asie, à l'Amérique latine, l'Amérique centrale, partout où ça bardait.
Bon, ça va plus vite de dire où vous n'êtes pas allé, en fait.
Oh, il y a quelques coins, quand même. Là, je vous dirais, il y a quand même des coins où
l'Arctique.
Je rêve encore d'aller, d'ailleurs.
L'Arctique, non.
Mais l'Arctique, c'est pas vraiment l'Arctique, mais le pôle Nord où j'ai rencontré ma compagne au pôle Nord, au Spitzberg.
Ah, c'est vrai, vous voyez, je le savais pas. Donc.
Voilà. Et c'était pendant un reportage, en effet. Elle était partie voir les ours blancs et les icebergs, et moi j'étais partie faire un reportage pour un magazine qui s'appelle VSD et sur les gens qui passent des vacances en été de manière un peu extraordinaire.
Ah, d'accord.
Donc loin des sentiers battus, loin du tourisme de masse et tout ça. Et voilà, c'était une bande de 8 jeunes qui partaient faire du kayak de mer au milieu des icebergs et des ours blancs.
Un aventurier, photo-reporteur, photojournaliste, mais aussi un aventurier. Et ce que vous voulez dire aujourd'hui, c'est les voyages que vous organisez ou que vous avez organisés, mais surtout contre le tourisme de masse. Hein, ça, c'est votre leitmotiv.
Surtout, je supplie les gens. Aujourd'hui, c'est facile de sortir des sentiers battus. Vous ne voulez plus aller à Bali où tout le monde va. Allez à Bali, mais allez là où personne ne va à Bali. Mmh. Et c'est possible.
Mais on va vous dire qu'il faut davantage de temps, qu'il faut... Non, pas vraiment.
Non, les voyages se préparent aujourd'hui différemment. Ah. On a une chance inouïe, voilà, au moins une application qui sera utile, c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Vous rentrez la destination qui vous plaît où vous voulez aller dans l'IA. Vous lui dites, voilà, je voudrais faire un voyage d'agrément, je voudrais faire un voyage découvert, je voudrais des événements pendant que j'y suis. Ou alors je veux mettre les doigts de pied en éventail, ou pas du tout. Je veux aller découvrir des marchés, je veux des fêtes locales. Y a-t-il des tribus dans les pays où je vais, etc. Vous leur posez toutes les questions. Et ils vous répondent et vous montez votre voyage comme ça. Et vous avez des réponses avec des dates fixes d'événements qui correspondent ou pas aux dates où vous voulez y aller, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec l'IA. Ce n'est pas la peine d'aller acheter trois guides de voyage ou de faire confiance même à des agences de voyage qui, elles, de toute façon, vendent ce que tout le monde vend.
Alors, je vous écoute, Patrick, mais moi, j'aime tellement consulter un guide papier que je me dis, là, les libraires, ils ne vont pas être contents. Hein, parce que...
Ah, les libraires ne vont pas être contents, les agents, les voyagistes ne vont pas être contents. Mais en même temps, je conseille aux gens, même sur un voyage qu'ils organisent eux-mêmes, de s'adresser quand même à une agence. Mmh. C'est une sécurité, ça, c'est très important. Je ne conseille pas aux gens d'acheter directement leurs billets d'avion, par exemple, en particulier les billets d'avion, sur des sites internet. D'acheter un voyage complet sur un site internet, vous ne savez pas qui est le réceptif qui vous vend le voyage, qui est peut-être une petite agence qui va mettre la clé sous le paillasson pendant que vous y êtes. Donc ça, surtout pas. Prenez comme exemple simplement là, tout ce qu'il y a eu, tous les gens qui sont restés bloqués dans les Émirats au moment du début de la guerre là, entre l'Iran et les États-Unis. Ben, les gens sont restés bloqués à Dubaï. Quels sont ceux qui sont restés bloqués à Dubaï? C'est ceux qui avaient acheté leurs billets directement aux compagnies aériennes ou sur Internet. Ouais. Ceux qui les avaient pris par des agences de voyage, franchement, ça va leur coûter peut-être 50 euros de plus à la réservation. Il faut bien que les agences de voyage gagnent leur vie aussi. Mais ils sont rentrés. C'est une assurance, c'est une sécurité. Quand vous avez des billets d'avion, vous savez, qui sont soit vous avez un vol retardé ou un vol avancé, eh ben, c'est pas l'agence qui... L'agence vous préviendra. Ouais. Si vous l'avez pris sur Internet, personne ne va vous annoncer que votre vol a été avancé ou reculé.
Oui, il faut être très, très méfiant. Puis moi, je pensais aussi en cas d'accident, en cas d'assistance santé, enfin, des choses comme ça, il faut faire attention.
On peut contracter des assurances directement de son côté. Mais c'est vrai que c'est tellement plus facile dans les agences de voyage qui ont l'habitude de ça.
Donc voyager autrement, mais tout de même avec... pas mal de, comment dire, de conscience, hein, de sécurité tout de même. Alors, je vous écoute, mais du temps où vous organisiez les voyages, enfin, avant, quand vous voyagez vous-même, vous n'aviez pas l'intelligence artificielle. Donc, vous faisiez comment ?
Ben avant, c'était un peu plus facile, à la limite, parce que j'étais photojournaliste. Ce n'est pas moi qui décidais. Quand ça pétait en Yougoslavie, je partais en Yougoslavie. Quand il y avait la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie, je partais. Je n'étais pas à voir par une agence de voyage pour m'organiser le voyage, etc. Non, pas du tout.
Vous avez fait cette carrière de photo-reporter. Et puis, à un moment, vous vous êtes dit, bon, vers 2015, il y a une dizaine d'années, je vais proposer des voyages à d'autres personnes.
Voilà, j'approchais un peu de la retraite, etc. Je me disais, je commençais à gamberger sur autre chose. Et j'ai eu envie de communiquer ça, c'est-à-dire de voyager différemment, de voyager autrement. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui a voyagé pour aller mettre les doigts de pied en éventail.
Club Méditerranée, pas citer.
Ou dans un all-inclusive, parce qu'il y en a de partout, en Grèce, en Crète, je ne sais pas où.
Mais on va vous dire, là où moi je me repose, là où moi je me détends.
Ça, je respecte. Mais voilà, après, c'est une question
de... Mais ne pas voir le pays, ne pas voir les personnes.
Bon. C'est dommage. Tous ces pays, il y a une population, il y a un peuple, il y a une culture, il y a une architecture différente, il y a une gastronomie, il y a des fêtes, il y a des événements. Allez voir tout ça, parce que c'est là que vous allez avoir le contact avec la population locale. Alors, quand vous allez au Népal, moi, les gens me disent, mais tu vas faire du trek. Ben non, non, bon sang, il n'y a pas que du trek au Népal. Et alors, ouais. Je suis scandalisé par les photos que je vois en ce moment partout sur Instagram, sur le Facebook, etc., de la queue des 800 personnes qui attendent pour passer un sommet à 6000 mètres d'altitude avec les masques à oxygène.
En laissant les déchets partout.
En laissant les déchets partout. Et puis surtout, ils n'ont pas la condition physique pour faire
mais
ça.
Mais il y a eu un mort dernièrement, là, une influenceuse, influenceuse qui a voulu absolument...
Ben voilà, du coup, on en a parlé, mais il y en a plein. Quand vous montez l'Everest, etc., vous allez vers le Manaslu, là, etc., vous voyez, vous allez au moins croiser deux ou trois corps morts, congelés, qui sont dans la neige, dans
et
la glace.
Et qu'on ne descend pas.
Et qu'on ne descend pas, parce qu'ils sont très bien là-haut. Donc voilà, donc n'allez pas, voilà, ne tombez pas dans le panneau.
Dans les Népal, clichés, oui,
le
voilà.
Le Népal, moi, j'organise des voyages qui sont fabuleux, avec la découverte de la population, on va dans les monastères, la vie dans les monastères.
Mais comment vous vous adressez à, je vais dire, à quelle clientèle, entre guillemets, c'est-à-dire c'est des... Vous avez des groupes de 10, 15 personnes, pas plus ?
Oh non, non, moins que ça.
Voilà. Moins que ça même ?
Moins que ça. Depuis que j'ai créé donc, ma petite société là, qui s'appelle photovoyageur.com, j'emmène des groupes de 6, 7 personnes, pas plus.
Tous photographes ?
Tous photographes.
Enfin, qui veulent photographier.
Qui veulent faire des progrès, qui veulent faire des progrès en photographie. Donc j'emmène des gens qui sont aussi bien équipés de smartphones, parce qu'aujourd'hui, je dis 90% des gens qui voyagent font pratique. De la photo ou de la vidéo. C'est très pratique, ça fait de très belles images. On peut faire un livre ensuite sur Internet avec des photos faites avec un smartphone, ça ne pose aucun problème au niveau de la qualité. Et puis après, j'ai des clients à l'opposé qui vont avoir du matériel hyper sophistiqué, qui sont des fans de photos, qui sont dans des photoclubs, qui participent à des concours photos, qui sont avant tout des voyageurs. Parce que pour venir avec moi, c'est vrai que les gens, ils ont envie de voyager différemment, c'est clair. Mais je les amène à la rencontre de l'humain. Moi, les voyages que j'organise ne sont pas des voyages nature ou animaliers. Ce sont des voyages avant tout sociétaux.
Sociétaux. Hein? Alors, on va parler après la pause musicale et je pense qu'on va deviner quelle est la musique qu'on va écouter. Vous faites aussi des voyages, c'est-à-dire des stages photos dans la région, hein, en Camargue. C'est aussi une autre activité, ça.
Alors, ce n'est pas une autre activité, c'est la même aujourd'hui, toujours au sein de photovoyageur.com. Donc, il y a les voyages que j'organise à l'étranger. Et ceux que j'organise moins loin.
Moins loin.
Alors, le moins loin du moins loin, bah,
c'est Camargue.
Ça commence chez moi, puisque je les loge même chez moi. Donc, c'est la Camargue pendant 5 jours. Et c'est une découverte des traditions camarguaises, des fêtes en Camargue, et puis des gens que j'appelle aujourd'hui la gastronomie, évidemment, et le peuple des taureaux, puisque je suis amoureux des courses camarguaises, de la tauromachie locale, etc.
Je vous avais rencontré pour ce très beau livre que vous aviez fait sur les familles de manadiers, que vous aviez exposé en grande photo sur les arènes.
Sur les arènes de Nîmes, en effet. C'était des photos tirées du livre Les dynasties de Camargue. Voilà. Et je trouve qu'en effet, pour moi, c'est dommage, mais bon, ça fonctionne. Mais c'est dommage de toujours présenter les clichés, en tout cas, que l'on présente sur la Camargue, qui sont soit les chevaux de Camargue qui galopent dans l'eau, soit les flamants roses. Avant ça, pour moi, il y a un peuple camarguais. Il n'y aurait pas la Camargue s'il n'y avait pas les Camarguais. Et les Camarguais, c'est les chevaux et les taureaux. Il n'y a pas de chevaux s'il n'y a pas de taureaux. Les chevaux sont des chevaux de travail. Ce ne sont pas des chevaux de balade pour les touristes l'été. Le cheval de Camargue ne sert pas à ça. Il sert pour aller travailler avec les chevaux, avec les taureaux.
Alors, vous allez aussi en Suisse. Je vous avais rencontré aussi pour des reportages sur ces très belles vaches.
On s'était vu, en effet. Oui, j'étais venu parler de ça. Je me souviens, en effet.
Et puis en Irlande aussi.
Des combats de rennes.
Ouais. Et l'Irlande du Nord, puisque tout le monde va en Irlande du Sud. Mais vous voulez l'Irlande du Nord.
Alors, j'aime l'Irlande du Nord parce que j'y ai vécu, parce que j'y ai été journaliste là-bas, etc. Et puis, ça prend un peu le contre... Et elle est magnifique. Elle est bien moins connue que l'Irlande du Sud. L'Irlande, la République irlandaise qui a été rendue célèbre par Sardou.
Ouais. Mmh.
Mais voilà, donc tout le monde veut aller voir l'Irlande de Sardou. Mais la véritable Irlande... mais la véritable Irlande, elle n'est pas là. Le Connemara en été, vous entendrez plus parler français, italien, espagnol que gaélique ou anglais. C'est clair.
Donc, l'émission s'appelle Voyager autrement et on va écouter On the Road Again. Again et toujours.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. my love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
Alors sur Radio Alliance Plus, c'est très agréable Patrick Frilay de vous écouter parler de ce voyager autrement. Et là, vous allez nous emmener dans les voyages que vous proposez actuellement, les voyages plus lointains. Est-ce que ça marche actuellement dans le contexte actuel ?
Alors c'est difficile là. Depuis 3 mois, j'ai annulé 2 voyages. Je suis rentré du Népal au mois de mars. Je devais partir en mois d'avril. Je suis rentré début mars du Népal. Je devais partir normalement en Irlande du Nord, justement. Toujours chaque année à la même époque, à l'époque de la Saint-Patrick,
ouais.
Qui est un moment extraordinaire à Belfast. Et alors, on découvre toute l'Irlande du Nord. Et puis, je connais tout le monde là-bas. Donc, ce sont mes réseaux que j'ouvre à mes clients. Donc, ça, c'est un voyage qui est superbe. Cette année, par contre, j'ai été obligé de l'annuler. Et le deuxième que j'ai annulé cette année, c'est la route du blues, qui est un de mes voyages fétiches, qui est un road trip de 3 semaines où on part avec, c'est moi qui conduis, donc un minibus. Et on part à travers la Louisiane, le Mississippi et le Tennessee, au travers de l'Amérique profonde, l'Amérique noire, l'Amérique du gospel, du jazz, du blues, du R&B et tout ça. Avec de la musique tous les jours, des festivals de musique. On rencontre nos cousins d'Amérique qui sont les Cajuns. Donc il y a la musique Cajun, la musique Zydeco. On va à la rencontre de tous ces gens-là. Et puis surtout, ça fait 40 ans que j'y vais. Donc,
vous connaissez tout.
Je connais tout le monde là-bas.
Et vous voyez une évolution ? Parce que 40 ans, la société change. Non, ça ne change pas là.
Non. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que l'Amérique profonde, elle reste l'Amérique profonde. C'est l'Amérique de Paris, Texas, sauf qu'on est là chez les Blacks et on n'est pas au Texas. Mais c'est tout, c'est la même ambiance, etc. Oubliez la route 66, faites la route 61. La route 66, tout le monde la connaît, c'est une arnaque.
C'est Johnny Hallyday.
C'est Johnny. Mais ce sont des mémorabilia, il reste quoi, peut-être un dixième de la route 66 qui encore vaut le coup.
Oui.
Le reste, ce n'est plus la route 66. Il y a des villes qui sont venues se créer dessus.
Mm-hmm.
Ensuite, on exploite le truc. Mais c'est pas, voilà, il n'y a plus rien. Alors que la route 61, la route du blues, celle-là, je la conseille vraiment. Ou alors, vous venez avec moi, je vous emmène.
Donc, on mettra le site, on vous l'avait dit plusieurs fois, www.photovoyageur.com. Et puis, vous contactez, entrez en contact avec vous. Et donc là, les projets futurs, j'espère qu'ils vont avoir lieu.
Alors, en préparation, là, oui. En septembre, donc, je pars en Papouasie. Pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée, même chose parce qu'aujourd'hui, il y a un tourisme de masse en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vais en Papouasie occidentale, c'est-à-dire la Papouasie indonésienne, où il n'y a quasiment pas un touriste. Les seuls qui vont là-bas vont faire de la plongée, c'est pas mon truc. Et les plongeurs ne s'intéressent pas aux populations locales. Ils intéressent aux poissons, ils plongent, ils sont sous l'eau. Mais ce qui est au-dessus de l'eau ne les intéresse pas. Par contre, là, vous avez encore des tribus extraordinaires, certaines qui n'ont encore pas vu de blanc depuis très, 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 très longtemps, ou qui n'en ont peut-être même jamais vu. Et
en
qui
fait,
étaient des tribus
côté...
qui étaient cannibales encore il y a 40 ans.
En fait, vous êtes un peu ethnologue aussi.
Ah ben, je suis passionné par les ethnies dans le monde entier. Donc voilà, donc j'ai la Papouasie. Après la Papouasie, alors je pars carrément de l'autre côté, mais genre deux semaines plus tard, je pars en Colombie. Et la Colombie, c'est un voyage que j'ai mis en place il y a trois ans. Il y a 3 ans, au moment où elle a commencé à s'ouvrir un petit peu. Et même chose, je vais à la rencontre des tribus Kogi, je vais à la rencontre des peuples qui vivent sur l'eau, sur des cités lacustres, qui sont tous pêcheurs. Et puis, il y a toute la culture colombienne qui est extraordinaire. Et évidemment, les taureaux, les chevaux, qui évidemment vont dominer aussi mon voyage, où j'emmène les gens rencontrer les vaqueros, c'est-à-dire la vie dans les ranchs, les jeux taurins qu'ils pratiquent. Ils ne tuent pas les taureaux non plus, mais ils jouent avec les taureaux, etc. Donc, c'était un voyage en immersion en Colombie.
Les personnes qui s'inscrivent, elles s'inscrivent en connaissance de cause, c'est-à-dire il faut une certaine condition physique, il faut...
Absolument non pas. Je leur dis avec moi, pas de trek. Malheureusement, un petit peu difficile pour ces gens qui seront vraiment en situation de handicap. Ça m'est arrivé d'en avoir, mais je ne peux pas me permettre d'emmener des gens avec des fauteuils roulants ou autres, malheureusement. Oui. Mais en revanche... ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique fabuleuse.
J'amène les gens hébergement
dans des hôtels. On est on va être dans un luxe deuxième, troisième étoile à peu près. Quelquefois un petit peu plus sommaire quand on est dans des coins dans le nord-est de l'Inde. Ça, c'est par exemple le troisième voyage que je fais à la rentrée, c'est-à-dire dans les tribus du nord-est de l'Inde. Et là, tout le monde a été en Inde. Mais personne n'a été là où je vais. Donc, on est dans les tribus Naga, on est dans des états qui s'appellent le Manipur, le Tripura, le Nagaland, l'Arunachal Pradesh. On est dans ces coins-là. Et j'y vais au moment d'une grande, grande fête annuelle qui a lieu où il y a 17 tribus, des tribus Naga qui étaient anciennement des tribus coupeuses de tête. Qui étaient des tribus qui avaient été très utilisées par l'armée britannique pour aller combattre les Japonais en Birmanie, parce qu'on est à la frontière avec la Birmanie et la Chine, là-haut. Et donc là, un petit peu plus sommaire, certains jours, les jours où on est vraiment dans les tribus.
Et c'est toujours 7-8 personnes ?
Toujours 7, au moins 8 avec moi. Là, c'est vraiment 7 maximum.
Et une échelle de prix ? Il faut parler tout de même un peu finance.
Alors, les prix pour, on va dire, pour entre 2 et 3 semaines, tout compris, tous les repas, l'hôtel, etc. Sans le billet d'avion international, parce qu'on prend des billets d'avion intérieurs, ceux-là sont inclus dans le prix, on tourne entre 4 000 et 5 000.
Tout compris.
Tous les repas sont compris, tout est inclus, etc. Le transport et tout.
Vous avez gardé des contacts avec vos premiers voyageurs ou c'est...
Oh là là.
Je suis certaine que oui.
J'ai un couple de voyageurs qui sont des amis aujourd'hui, évidemment. Couple de radiologues. Et ils en sont avec moi au 25e voyage.
Ils viennent en
sur 10 ans, ils en sont au 25e voyage. Et c'est un peu pour eux que je suis obligé de temps en temps de créer un nouveau voyage et de créer une nouvelle destination, etc. Et là, je suis en train de travailler sur une destination que je connais très, très bien, mais où je la connais hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse, c'est Bali. Pourtant, Bali, on a l'impression que tout le monde y a été. Beaucoup de gens reviennent en disant « j'ai détesté », parce qu'ils n'ont vu que des étrangers. Ils ont vu des gens boire des bières face au coucher de soleil par horde. Ben non, moi, je croise pas ces gens-là.
Mais vous aimez aussi... vous aimez les gens, vous aimez les sociétés, les civilisations, mais vous aimez aussi la nature. Je pense qu'il y a tout de même des paysages assez fabuleux que...
Si, il y a des très beaux paysages. Ben, un des voyages que je fais logiquement en septembre, que je ne vais pas faire cette année, pour ça que je démarre avec la Papouasie, normalement, fin août, début septembre, je vais aux États-Unis. Et je vais là, non pas sur la route du blues, mais j'ai appelé ce voyage « Danse avec les Sioux ». Donc proche du nom du film de Kevin Costner, ouais. Danse avec les loups. Mais on voit pas de loups, comme j'avais appelé ça comme ça au début. Et les gens me disent, ah, on va photographier des loups. J'ai dit, non, on va pas voir les loups. Par contre, on va voir des Sioux. Donc j'y vais au moment de la plus grande fête indienne. Et là, on est dans des paysages extraordinaires. Ouais. Et le voyage se termine. Là, on est dans les terres sacrées indiennes, ce qu'on appelle les Badlands. On est dans le Custer Park. Et puis surtout, évidemment, on est dans le Yellowstone et le parc du Grand Teton, qui sont probablement les deux plus beaux parcs des États-Unis. Donc voilà, là, il y a beaucoup de paysages. Dans le nord de l'Inde, pareil, on a de très beaux paysages avec des plantations de thé, avec les montagnes derrière.
Et la
le
faune.
Népal, évidemment, on voit toute la chaîne de l'Himalaya.
Et
on
la faune, ça vous intéresse? Alors, à part les taureaux.
À part les taureaux, ben, j'ai deux voyages où il y a une partie consacrée aux rhinocéros, unicornes, et au Népal et au Nagaland. En Assam, plutôt, pardon, l'Assam exactement, où on va faire un tour à dos d'éléphant parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les approcher pour faire de belles photos, parce qu'il faut être un peu en hauteur. Souvent, les herbes sont hautes. Donc, si on est en 4x4 ou en Land Rover, ben, on ne les voit pas. Où on est coincé sur des routes alors qu'ils sont dans la bouillasse, ils sont vraiment dans la boue profonde et seul l'éléphant peut aller là. Et on n'est pas nombreux sur le dos de l'éléphant, ce qui fait qu'on protège quand même, on respecte l'espèce. L'éléphant.
Alors, voyager autrement, oui, vous voyagez autrement, vous le conseillez à chacun et vous dites, continuez de voyager actuellement. Je veux dire, avec l'IA, vous pouvez vraiment aller trouver.
Et puis, contrairement à ce qu'on dit, profitez-en. Aujourd'hui, c'est le moment ou jamais. Les tarifs n'ont pas flambé dans l'aérien. Ils ont flambé dans certaines compagnies. Ben, on va prendre notre compagnie nationale, Air France, où là, ils ne se sont pas gênés d'augmenter les prix. Par contre, vous voulez aller, et c'est sûr aujourd'hui, vous prenez des compagnies qui partent par le Moyen-Orient ou qui partent par les Émirats. Hein, que vous prenez des compagnies comme Qatar ou plutôt Emirates, mais bon, les deux sont aujourd'hui circulent normalement et sont arrêtés 2-3 jours seulement. Et puis Turkish Airlines, qui est fabuleuse, qui est probablement considérée comme la deuxième compagnie aujourd'hui au niveau qualité sur la planète. Donc là, on a des tarifs qui sont intéressants. Et vers les États-Unis, malheureusement, il n'y a pas trop autre chose que Air France, mais c'est pas là qu'ils ont fait le plus de mal au niveau des tarifs.
Merci Patrick, merci pour cette passion que vous transmettez avec toujours cette même passion et à bientôt pour d'autres rendez-vous.
À bientôt, parce que je pense que là, je n'ai pu dire que le quart de ce que
le
j'aurais pu dire.
Le quart du centième.
Donc on a au moins encore 3 émissions à faire.
Merci Patrick,
merci,
à bientôt.
Merci Sylviane.
Avec les gens.